C'est le cerf de Saint-Jean-Baptiste qui l'a senti venir en premier. Bon, il n'y a pas de quoi y donner de médaille, là. C'est ça son super pouvoir. Il peut percevoir les dangers mieux que n'importe quel autre être vivant sur Terre et même dans l'imaginaire. Alors, il a fait ce qu'il faut. Ben, ce que les cerfs font depuis des milléniaux pour signaler un danger sans déclencher la panique. Il a relevé sa petite queue, puis il a montré le blanc de son péteux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que les cerfs avertissent le troupeau d'un danger imminent. Quand il lève sa petite queue, ça veut dire « Hey, bouge pas tout de suite là, mais il y a un méchant dans le décor. On part à courir dans 3, 2, 1... » Zou! À grand bond, notre cerf est parti vers McMasterville, parce que c'est là que se cache le messager de toutes les bêtes veilleuses de la région. Un lièvre tellement rapide qu'il se démultiplie. C'est vrai, il court tellement vite qu'il se retrouve à passer 100 fois de tout bord tout côté à chaque seconde. Tellement vite que souvent il se croise lui-même, puis là il est pris pour se faire un petit salut gêné. Fait qu'il s'agissait que le cerf lui montre son blanc popotin, puis instantanément toutes les bêtes veilleuses de la vallée du Richelieu auraient été mises au courant du danger imminent et auraient pu commencer à se préparer pour le contrer. Et malheureusement, notre cerf a croisé une voiture. Et ça, c'est sa super faiblesse. Dès qu'il a vu l'effort, il s'est immobilisé, incapable de bouger, comme hypnotisé sur le bord de la route. Puis ça, ça a permis au danger de s'installer. À l'aube, une kayakiste est embarquée sur la rivière pour aller faire un tour avant que les bateaux sortent. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas avancer. Quelque chose en dessous de l'ours tenait sa pagaie. Elle s'est dit « Ah, les foutues algues bleues! » Mais elle se trompait. Au même moment, une autre bête veilleuse constatait l'arrivée du danger. De la pire façon possible, hein, en se noyant. Cette bête veilleuse-là, c'était celle de Saint-Charles, le chevalier cuivré. Là, tu vas me dire, hein, un poisson qui se noie, ça se peut pas. Et pourtant, oui. Si l'eau est trop faible en oxygène, un poisson peut se noyer. À cause d'une mystérieuse affaire gluante qui s'était installée à la surface, c'était en train de se passer. On va se le dire, là, le chevalier cuivré aurait pu se déplacer vers le centre de la rivière pour trouver de l'eau plus riche en oxygène. Mais c'était pas possible. Parce que la super faiblesse du chevalier cuivré, c'est le vertige à l'envers. Ben oui, toi, s'il se trouve en eau trop profonde, il fige, il se morfond, il coule, puis il disparaît pour de bon. Puis voilà qu'à la dernière seconde, juste avant de mourir, il a rassemblé ses forces pour sauter hors de l'eau. Et en faisant ça, il a activé son super pouvoir. Les rayons du soleil levant ont touché son armure cuivrée, et ça a fait une immense boule de lumière. Une boule de lumière tellement forte que toutes les autres bêtes veilleuses de la vallée du Richelieu l'ont vue et sont parties vers la cachette des bêtes veilleuses. La cachette, je vous dirai pas où ce qu'elle est. Pour la bonne raison que c'est une zone magique, puis si trop d'humains curieux y vont, ça va la démagiquifier. Ben oui, toi, on fait ça, nous. C'est à cause que les humains, par mauvaise habitude, on en veut toujours plus. Je pense que c'est parce qu'on a peur que ça finisse trop vite. Alors on a faim de tout. Ça nous fait un appétit sans fin. Puis un appétit sans fin, ça finit souvent par devenir une apathie. Sais-tu quoi une apathie? C'est d'avoir le goût de rien, même si t'as faim pour tout. Le premier rendu à cachette, bien sûr, ça a été le lièvre. Il est arrivé tellement vite qu'il y avait littéralement le feu au derrière. Sa super faiblesse à lui, c'est qu'il peut pas arrêter de courir. Alors il a continué à courir en rond, à reculons, en espérant que le vent lui éteigne le péteux. Et ça, ça a fait un signe lumineux vers lequel les 12 autres bêtes veilleuses ont pu converger. La dernière arrivée, ça a été la tortue de Saint-Basile-le-Grand. Malgré l'urgence, on l'a attendue parce que la tortue, c'est la meilleure pour résoudre des problèmes. D'ailleurs, c'est ça son super pouvoir, hein? Elle réfléchit mieux que quiconque sur Terre parce qu'elle prend le temps de le faire. Le cerf a décrit ce qu'il avait ressenti pendant la nuit. Le chevalier cuivré a décrit ce qu'il avait constaté sous l'eau. Et on s'est retourné vers la tortue qui a dit « Il me manque des éléments pour répondre. Loutre, va donc nous recueillir un peu de cette matière qui recouvre la rivière. » Alors la loutre d'Otterburn Park est partie vers la menace. Sans aucune peur, hein, remarque bien, parce que la loutre, elle perçoit tout comme un jeu. C'est ça son super pouvoir, même les plus grands défis et les plus grands dangers, elle les aborde en ricanant. En glissant sur le dos, au long des ruisseaux, les pattes en l'air comme un bébé qui découvre ses pieds, elle s'est rendue jusqu'à l'endroit où le chevalier cuivré s'était presque noyé. Et elle a recueilli une poignée de danger gluant dans une de ses pattes palmées. Et tout à coup, sa super faiblesse s'est enclenchée. C'est que tu vois, la loutre, c'est une ramasseuse compulsive. Elle peut pas s'empêcher. Dès qu'elle a quelque chose dans une patte, elle doit en ramasser plus. Alors elle s'est mise à cueillir des cailloux, des coquilles, tout ce qu'elle trouvait qui sortait de l'ordinaire. Et comme c'est bien connu, de l'extraordinaire, il y en a plein sur le bord de la rivière. tellement que la loutre a oublié qu'elle devait revenir vers la cachette. Le danger inconnu en a profité pour continuer d'avancer. Le lendemain matin, un pomiculteur de bonne humeur parce qu'il était de bonheur a constaté quelque chose de terrible. Ses précieuses pommes étaient toutes couvertes de cratères et d'une espèce de poudre blanche. Elles ressemblaient à des petites lunes. Le pomiculteur a dit
« Oh, le foutu mildiou !»
Mais il se trompait. Et les bêtes veilleuses pouvaient plus attendre la loutre. Alors la tortue a longuement regardé ses comparses pour choisir laquelle des bêtes veilleuses pourrait continuer l'enquête. Mais la super faiblesse de la tortue est la suite logique de son super pouvoir. Si elle est la meilleure pour réfléchir, elle est aussi celle qui prend tellement son temps pour peser le pour et le contre que parfois, elle finit par prendre ses décisions beaucoup trop tard. Sentant que c'était en train de se produire, la Bernache de Saint-Hilaire a pris la parole. C'est pas un hasard, hein? La Bernache a un sens inné du leadership. C'est ça son super pouvoir. Elle est capable de savoir à chaque moment qui devrait mener le groupe, qui devrait voler à la pointe du V. La Bernache a donc dit que, comme il fallait être furtif et subtil pour s'immiscer dans le monde des humains, il fallait que ce soit le renard de Saint-Mathieu de Belœil qui aille chercher une des pommes lunaires, pour qu'on puisse enfin comprendre ce qui est en train de se passer. Il n'était pas content, notre renard, parce que sa super faiblesse, c'est la peur. Malgré sa vitesse, son intelligence, sa beauté, il est toujours hanté par une voix qui lui chuchote le pire qui peut arriver. Mais il a aussi le super pouvoir d'échapper au regard en creusant des tanières. Alors il s'est mis à creuser, dans le temps de le dire, un profond tunnel qui menait jusqu'au verger. Bien sûr, avant de rentrer dans son tunnel, le renard a fait pipi à l'embouchure. Mais ça, essaye pas de comprendre pourquoi, ça c'est une affaire de renard. C'est pas logique, mais c'est de même. Il a rapidement ramené une pomme lunaire, et les bêtes veilleuses se sont penchées dessus. Elle avait l'air de s'être fait téter son jus jusqu'à temps qu'elle dessèche par en dedans. Comme si un vampire avait décidé de devenir vegan.
« Tout ce qui est vivant finit par être pourri. C'est le cycle de la vie. »
Les bêtes veilleuses se sont tournées vers celui qui avait parlé. C'était le carcajou de Saint-Marc. Celui dont le super pouvoir lui permet de flairer la moindre trace de décomposition dans tout.
Or, cette pomme n'a plus rien de vivant en elle, plus rien qui peut pourrir. J'ai jamais rien senti de pareil.
C'est à ce moment que la loutre d'Otterburn Park est enfin revenue. Elle a garroché devant l'entrée le millier de cailloux qu'elle avait ramassés et est venue présenter la matière gluante qu'elle avait prélevée sur la rivière. À nouveau, le carcajou de Saint-Marc s'est prononcé.
« Ça aussi, ça ne sent rien qui pourrit. Je vous le dis, on se fait attaquer par un pot de vie. »
Alors la Bernache a proposé que le carcajou de Saint-Marc sorte dans la nuit, pour qu'il se serve de son super odorat afin de sentir l'endroit où se cachait ce mal qui enlevait l'odeur à tout. Mais la super faiblesse du carcajou l'empêchait de faire ça. Impossible de s'approcher du monde des humains qui est jonché d'ordures quand on efflaire la moindre pourriture. C'est pas pour rien qu'il est solitaire. C'est finalement le Harfang de Belœil qui s'est porté volontaire pour aller trouver le repère de la force maléfique. Il a dit « Puisque mon super pouvoir est de percevoir tous les mouvements, et puisque toute chose qui est vivante bouge constamment, je vais m'envoler demain matin et trouver l'endroit où règne l'immobilité. » Dès les premiers rayons du jour le lendemain, le Harfang s'est envolé et a rapidement repéré la zone où rien ne semblait bouger. Il s'en revenait vers la cachette des bêtes veilleuses pour annoncer sa trouvaille quand tout à coup, il s'est senti étourdi. Bon, rendu là, t'as compris l'histoire, hein? Tu devines que c'est dû à sa super faiblesse. Parce que le Harfang en a une, lui aussi. Dans son cas, c'est la chaleur. Et ça fait pas juste le ralentir, hein? La chaleur l'empêche complètement de fonctionner. Dans un monde qui se réchauffe sans cesse, le Harfang de Belœil se trouve bien souvent démuni. Alors le glorieux rapace s'est mis à tomber des cieux, tandis que le mâle qui n'a pas de vie continuait à ronger les humains de la région. La nuit dernière, déjà, plein de gens avaient rêvé qu'ils vivaient sur une île déserte et qu'ils avaient enfin la paix. Finalement, à la cachette, la Bernache s'est impatientée. Elle a demandé aux bêtes veilleuses laquelle serait capable de retrouver le Harfang disparu. Et la réponse est venue, on ne peut plus clair. C'était l'orignal de Saint-Denis, celui dont les panaches font comme des mains, qui attrape toutes les pensées qui lui passent au-dessus de la tête. Assurément, par son pouvoir de télépathie, il pourrait déceler à quel endroit le harfang avait atterri. L'orignal est parti par les chemins boueux et reculés pour ne pas capter trop de pensées. Ah ben oui, ça c'est sa super faiblesse. Il est forcé de rester loin des sentiers battus parce qu'il peut pas endurer d'entendre toutes les pensées de tous les passants en même temps. Finalement, au bout d'un rang, il a reconnu le dialogue intérieur du harfang. « Oh tiens, ça a bougé. Oh, et ça aussi. Et puis ça aussi, ça bouge. » L'orignal de Saint-Denis s'est approché de l'oiseau blessé. Le pauvre harfang avait les yeux qui tournaient comme des toupies. L'orignal a recueilli l'oiseau blanc, l'a posé sur son dos et l'a ramené jusqu'à la cachette des bêtes veilleuses. On a déposé le harfang doucement sur une table, car même les plus forts ont besoin de douceur quand ils viennent de tomber. Et on a attendu que ses yeux arrêtent de tourner. Et enfin, il a pu dévoiler le lieu où se trouve l'antre du danger pas de vie. Mais ça, je vous le dirai pas non plus. Ce qui compte, c'est que les bêtes veilleuses savaient maintenant d'où vient le danger. Le castor de Chambly s'est offert pour aller l'emmurer. C'est vrai quoi, avec son super pouvoir qui lui permet de construire sans fatigue du matin jusqu'au soir, il était capable d'aller bâtir un barrage qui saurait retenir le mal et l'empêcher de progresser. Il a tapé sa queue 3 fois par terre, comme pour avertir le monde entier qui prenait les choses en main, et il s'est mis au boulot. Non, je veux dire, il s'est littéralement mis au boulot, en commençant à abattre les uns après les autres les vieux bouleaux qui n'avaient pas survécu au verglas de l'an passé. Puis il s'est mis à les empiler autour de la zone morte. On a cru pendant un instant que le problème était réglé. Je dis un instant parce que la joie n'a pas duré longtemps. Une voix s'est élevée dans le cœur du castor de Chambly, une voix terrible qui lui a dit
« Il était temps que vous arriviez. Je commençais à me demander. C'est toi qu'ils ont envoyé? Le castor? Avec tes petites pattes de tyrannosaure, ton gros corps ballot et tes dents pourries qui sont plus longues en bas qu'en haut?
Ah! » Et ça rejoint directement la faiblesse du castor, qui ne se sent bien nulle part. C'est pas pour rien que ce mammifère terrien passe son temps caché sous l'eau. C'est le seul endroit où on y parle pas de ses dents. Il s'est caché, honteux. Il a cessé de travailler. Pire, il avait lancé un mouvement. Partout dans la vallée du Richelieu, les gens se sont mis eux aussi à construire d'immenses barrières entre eux et leurs voisins, dans l'espoir de se protéger contre... Ils savaient même pas quoi. Ça a horrifié le loup de Saint-Antoine qui, comme on le sait, ne vit que pour le groupe. Lui, il se tenait en retrait juste là, principalement à cause de sa super faiblesse qui est de faire peur à ceux qui le comprennent pas. Tout d'un coup, il a bondi hors de la cachette des bêtes veilleuses, puis il a couru vers l'ennemi pas de vie pour trouver son point faible. Parce que c'est ça, le super pouvoir du loup, n'est-ce pas? Avec son flair, il peut percevoir les émotions négatives de ceux avec qui il entre en contact, et s'en servir pour trouver leur point faible. Rendu à la zone morte, confiant, le nez en l'air, les oreilles tendues, il a pris le temps de tout analyser. Et pourtant, il est revenu bredouille.
« J'ai rien trouvé », qu'il a dit. L'ennemi pas de vie a pas de point faible non plus. C'est comme essayer de se battre avec une ombre dans le noir.
Le canard de Carignan s'est alors levé et a pris la parole.
Je commence à croire que l'ennemi pas de vie vient d'une autre dimension.
Un murmure d'effroi a couru dans la cache des bêtes veilleuses. Si la menace venait de l'autre côté, c'était pas gagné. Le seul qui pouvait aller y faire un tour, c'est justement le canard branchu de Carignan. Oh oui, parce que le canard peut aller dans d'autres dimensions. Mais quoi, t'es-tu déjà demandé comment ça se fait que lorsque le canard plonge sous l'eau, il en ressort tout sec? C'est parce qu'il va pas vraiment dans l'eau. Dès qu'il passe sous la surface, il apparaît dans le ciel d'une autre réalité. Alors le canard est parti vers la zone morte et il a plongé dans un petit étang. Dès qu'il est passé dans l'autre dimension, il a vu à quoi on avait affaire. Mais tout de suite... L'ennemi pas de vie s'est attaqué à la super faiblesse du canard, comme il l'avait fait avec le castor. Et la grande faiblesse du canard, c'est l'eau. Dès qu'il est mouillé, il panique. Il ne devient pas tout à fait une poule mouillée, mais disons qu'il devient un canard mouillé, ce qui est tout aussi lâche. Alors le canard est sorti de l'eau en piaillant. Yark, 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 yark. En rentrant, tout tremblant, à la cachette, il a dit « Je connais notre ennemi. C'est la petite apathie qui avance petit à petit. »
La petite apathie qui avance petit à petit. Notre vieil ennemi.
Te souviens-tu c'est quoi, toi, l'apathie?
Oui, c'est ça. C'est ce qui te donne la faim sans fin, même si t'as le goût de rien.
C'est elle qui embourbait la rivière, qui têtait la vie des fruits et qui isolait les humains les uns des autres. Et personne, pas même les bêtes veilleuses, ne savait comment la vaincre. Puis c'est à ce moment-là que la tortue a enfin fini de réfléchir. Elle a dit
« Si au lieu d'être extraordinaire, on essayait d'être ben ordinaire. »
Et les bêtes veilleuses ont compris. Parce que la tortue avait raison, leur super pouvoir ne pourrait jamais rien contre l'ennemi parce qu'ils venaient tous avec une super faiblesse que la petite apathie pouvait utiliser contre eux. Mais la petite vie au quotidien, ça
vient juste avec quelques petits défauts.
Fait que le lièvre y a ralenti un brin. Puis le cerf s'est calmé le popotin. En fait, toutes les autres bêtes veilleuses ont accepté de redevenir de simples animaux le temps de sauver la vallée. Et ils sont partis, ben ordinaires, avec leur sœur puis leur frère, s'installer directement dans Zone Morte. Et tout à coup, la Zone Morte s'est retrouvée à pu être morte pantoute. Au contraire, ça grouillait de vie puis de voisinage partout là-dedans. À tel point que le portail de la petite apathie a fini par être complètement embouteillé et qu'elle n'a pas pu continuer à progresser petit à petit. Elle s'est même embourbée dans ses propres motons visqueux, puis elle a disparu à la pluie qui a suivi. Ouais, je le sais, c'est un peu anticlimatique comme final, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Ça prend pas des gestes héroïques pour ramener la vie dans un voisinage, là. Y a pas un être surnaturel qui va apparaître puis se porter volontaire pour coacher le soccer avant d'aller s'assurer que Monsieur Papy à la porte à côté il se porte bien, là. Non, non, c'est à toi, c'est à moi, puis c'est à nous de le faire. Puis le pire, c'est que ça va nous faire du bien. Parce que la seule façon de guérir la faim sans fin, même si t'as le goût de rien, c'est de t'occuper de tes voisins.
Le conte de la petite apathie a été créé et enregistré par Yoda Lefebvre. Il s'agit d'une réalisation de La Grande Trappe, produite par la MRC de la Vallée du Richelieu. La MRC de la Vallée du Richelieu souhaite remercier l'artiste André Michel, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et les 13 municipalités du territoire pour leur collaboration dans le projet Animalis Encantus. La MRC remercie également les personnes qui ont participé à la création de ce conte lors de la virée Vox Populi de Brixta, la sorcière. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'entente de développement culturel.